Stéphane Fugier, vous nous avez expliqué que pour enregistrer ce Tédéum de Lully, vous étiez, instrumentiste et chanteur, un petit peu moins d'une centaine. Et ça n'était rien à côté de ce qui se pratiquait à la fin du XVIIe. Alors, est-ce que ça veut dire qu'à la cour de France, on était dans l'opulence quand, quelques années plus tard, on connaît les multiples témoignages de Bach qui aura du mal à payer 8 musiciens?
En fait, les instrumentistes et les chanteurs qui avaient Bach, effectivement, n'étaient pas très très nombreux. C'était pour chanter à la messe tous les dimanches, en fait. Cette idée de chanter à la messe le dimanche pour Bach en Allemagne, par exemple, elle correspond à ce qu'on appelle l'ordinaire de la messe à la cour de Louis XIV. Et là, les instrumentistes étaient, et les chanteurs n'étaient pas très très nombreux non plus. Mais il se trouve que de temps en temps, il y avait des très grandes festivités et Lully a écrit spécialement pour ces grandes festivités. Lully fait pas du tout partie des musiciens qu'on appelle les musiciens ordinaires de la chapelle. Il est compositeur d'opéra essentiellement. Évidemment, c'est peut-être le musicien favori de Louis XIV, au moins pendant une grande partie de sa vie.
Il a tout fait
Et
pour ça, non, Lully.
il a tout fait pour ça, effectivement. Mais je pense qu'il avait aussi la capacité de pouvoir le faire. C'est-à-dire, il a quand même vraiment réformé ce qu'était l'opéra. C'est finalement les grandes tragédies lyriques. L'opéra versaillais tel qu'on le pense, c'est finalement lui qui l'a créé. Et pour ces cérémonies qui étaient vraiment des cérémonies extraordinaires, celles qui n'étaient donc pas ordinaires, hein, au sens étymologique, eh bien, on a des forces qui sont réunies, qui sont des forces extraordinaires. Donc, on est effectivement très loin des petits effectifs habituels de la chapelle royale, justement pour célébrer les grands événements. Ça a été le cas de tous les grands motets, le Te Deum, le Benedictus, le Dies Irae, le De Profundis, par exemple, pour la mort de la reine, etc. Voilà, c'était comme ça que ça marchait.
Stéphane Fugier, grande supériorité de l'objet disque sur les sites de téléchargement, eh ben c'est l'objet justement, c'est le livret. Et alors de ce côté-là, il y a des tableaux, il y a une illustration qui est assez parlante, et puis il y a ces textes extraits du Mercure Galant.
On a beaucoup de sources qui viennent d'horizons différents pour essayer de reconstituer ce que pouvait être l'exécution de la musique finalement à cette époque-là. Alors, évidemment, on a d'abord la partition, ça c'est une première chose.
Est-ce que c'est une partition qui laisse quelques libertés aux musiciens d'aujourd'hui ou est-ce qu'on est déjà, comme on le fera plus tard dans l'histoire de la musique, est-ce qu'on est déjà dans quelque chose de très écrit, très, je dirais pas figé, mais presque?
C'est une partition qui dit une partie de la chose, de tout n'est pas dit. Il faut avec toutes les sources qu'on peut avoir autour, donc notamment les traités qui disent comment on exécutait la musique à cette époque-là, comment on jouait, comment on chantait, mais aussi les témoignages. Alors on a des écrits de personnages de la cour. Par exemple, on a Madame de Sévigné qui parle à certains moments d'exécution de grands motets. On peut avoir des effectifs de musiciens. On peut avoir effectivement le Mercure Galant, par exemple, qui donne quelques détails d'une cérémonie. Et quand on réunit tout ça, alors on s'aperçoit effectivement que on peut compléter ce qui nous manque de la partition, parce que la partition n'est pas une partition au sens où on l'entend à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle, par exemple. On est sur une partition dans laquelle il faut rajouter des ornements, il faut rajouter les instruments. Les instruments sont pas nommés, par exemple. On sait qu'il y avait des violons, mais on peut mettre des hautbois, on peut mettre des flûtes. On peut, alors les trompettes, elles sont marquées, mais on ne sait pas combien il y en avait. Voilà, il y a quand même des, il y a quand même des tas de choses qui sont pas notées dans cette partition. Et tous ces témoignages autour nous permettent d'essayer de se faire une idée, hein, parce que comme on n'a pas d'enregistrement, on se fait une idée d'après des écrits. Ce qui est toujours une chose un peu délicate. Quand on, si on avait un enregistrement et qu'on écoutait, c'est soit on serait extrêmement surpris de ce qu'on entendrait.